Bien-aimés, nous vous disons merci de nous accueillir encore pour ce message. Et nous voulons commencer par la prière. Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devant toi pour le message que tu envoies à ton peuple pour clôturer cette semaine de la prière. Nous voulons te dire merci pour ce moment et cette opportunité que tu nous offres d'adresser cette parole à ton peuple et d'être un instrument que tu veux utiliser par ta grâce. Bénis-nous, utilise-nous et sanctifie cette parole dans notre bouche pour qu'elle soit parole qui agit dans le cœur de nos frères et qui intervient pour nous accorder de saisir à quoi tu nous appelles pour vivre une vie de prière riche, capable de toucher ton cœur et de te voir exaucer nos prières. Nous prions tout ceci au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous allons lire dans deux passages. Le premier, c'est dans le psaume chapitre 2, le verset 1 à 2. Et le deuxième, Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 23 à 31. Je commence par le psaume chapitre 2, verset 1 à 2. Pourquoi cette agitation des peuples? Ces grondements inutiles des nations. Les rois de la terre s'insurgent et les grands conspirent entre eux contre le Seigneur et contre son Messie. Acte 4, verset 23 à 31. Une fois relâchés, Pierre et Jean rejoignirent leurs compagnons et leur racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. On les écouta. Puis tous unanimes s'adressèrent à Dieu en ces termes. Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as mis par l'Esprit Saint ces paroles dans la bouche de notre Père David, ton serviteur. Pourquoi donc ces grondements des nations et ces vaines entreprises des peuples? Les rois de la terre se sont rapprochés et les chefs se sont assemblés pour ne faire plus qu'un contre le Seigneur et contre son oint. Oui, ils se sont vraiment assemblés en cette ville, Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël, contre Jésus, contre ton saint serviteur que tu avais oint. Ils ont ainsi réalisé tous les desseins que ta main et ta volonté avaient établis. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. À la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fit ébranler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu. Le thème de notre message, c'est « En temps de détresse, peuple de Dieu, unissons-nous dans la prière. » En temps de détresse, unissons-nous dans la prière. Ce message est un message qui est donné dans le but de clôturer toute une semaine de prières que nous avons eues chacun individuellement et nous tous collectivement. Nous venons de tirer ce message dans ces deux livres, l'un des psaumes 2, versets 1 à 2, et Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Parce que dans le livre des Actes, ces passages que nous lisons, et même d'autres passages qui se retrouvent dans le livre des Actes, nous font entrer dans les combats qu'a connu l'Église en son début. Et nous verrons donc comment, au moyen de la prière, la première Église, confrontée à des menaces, à des situations de détresse, a réussi à triompher. C'est une Église encore jeune, mais les membres qui la composaient étaient tellement engagés, assidus à la prière, et ils avaient compris que prier, vraiment prier, pouvait les conduire de victoire en victoire. C'est ainsi, pour introduire, il faut que je dise pour commencer, que lorsque deux ou trois personnes ou un couple ou une famille ou une communauté se mettent en alliance pour prier, ils triomphent toujours. Il y a des situations qui s'abattent sur nous et auxquelles dont nous pouvons être épargnés des conséquences si nous nous engageons dans une alliance en prière. Quand nous ne prions pas, il y a des opportunités que nous pouvons manquer pour nous-mêmes, moi-même en tant qu'individu, ou toi en tant qu'individu, que nous pouvons manquer en tant que couple si nous sommes dans une vie de couple, que nous pouvons manquer en tant que famille si nous ne nous engageons pas résolument dans la prière, que nous pouvons faire manquer à nos enfants si nous sommes des parents, que je peux faire manquer à ma femme si je suis marié, ou que je peux faire manquer à mon mari, que je peux faire manquer dans ma vie professionnelle ou dans ma vie d'affaires pour garantir mon présent et pour mon avenir. Je vais donc insister ici sur la nécessité de s'unir dans la prière. C'est cette expérience que nous allons voir, ce que cela a produit dans un récit que nous venons de lire. Il y a, c'est vrai, beaucoup d'expériences dans les Actes des Apôtres, mais je vais me référer à deux parce que nous n'avons pas le temps. La première expérience se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 3, où Pierre et Jean montent au temple pour prendre part à la prière du soir. Cette prière avait toujours lieu à 15h, 3h de l'après-midi. Là, lorsqu'ils arrivent à la porte du temple, ils trouvent un homme infirme de naissance. Il a l'âge de 40 ans. Qui a vu ses pieds et ses chevilles s'affermir par la prière de la foi que Pierre a faite ce jour-là. Et cette prière de la foi a été faite au nom de Jésus qui était mort et qu'il proclame ici dans sa prédication comme étant ressuscité d'entre les morts. Cette guérison miraculeuse qui s'accomplit va faire que Pierre et Jean seront arrêtés. Le Sanhédrin qui était composé, c'était une équipe des anciens, en tout cas plus de 70, 72 au plus, qui se réunissaient, était en majorité composé des Sadducéens. Et ces Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Parce que le message de Pierre a insisté sur le fait que Jésus a été mis à mort, mais qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Et que les Sadducéens, pour la plupart, ne croyaient pas, enfin tous, ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts, et qu'ils composaient, pour la plupart, les Sanhédrins, ils étaient pris de colère, et ils ont arrêté Pierre et Jean. Parce qu'ils se permettaient de dire que celui qu'on a vu tuer, enfin qu'ils ont fait tuer, a été ressuscité d'entre les morts. Selon les versets 14 et 16 de ces Actes des Apôtres, chapitre 3, dont je venais de parler, les dirigeants juifs étaient en face d'une évidence. La personne qui était infirme de naissance, qui jusqu'à 40 ans ne pouvait pas marcher, a été à mesure de marcher. L'évidence de ces miracles était irréfutable. Mais, malgré tout ça, ils n'étaient pas en mesure de laisser ces gens continuer à prêcher, parce que la foule croyait à leur message. Beaucoup de personnes étaient gagnées à l'évangile à cause de ces miracles qui venaient d'avoir lieu. Alors, ce qui les restait, c'était tout simplement de les menacer pour que ce nom de Jésus ne soit plus jamais mentionné devant qui que ce soit. Et c'est donc dans cet environnement d'hostilité que rencontrent les premiers chrétiens que se retrouvent ici des menaces d'interdiction formelle de prononcer ou d'enseigner au nom de Jésus. Cette interdiction va amener les chrétiens, parce qu'ils ont vu Pierre et Jean, Jacques, Jean être arrêtés, ils vont se mettre en prière. Ils vont se mettre en prière et c'est cette prière remarquable que nous allons examiner dans ce message. Je voudrais tirer une première leçon ici. Les premiers chrétiens ont subi des menaces. Ils ont été intimidé par les dirigeants juifs pour qu'il ne prononce plus jamais le nom de Jésus. C'est aussi ça que nous vivons dans notre époque, dans ces temps, depuis 3 mois. Il y a une interdiction formelle de pouvoir nous rassembler dans nos églises. Pourtant, les marchés fonctionnent, les restaurants sont en train de fonctionner. Et cette interdiction de nous rassembler en église n'est pas à prendre à la légère. Nous devons nous unir. Nous devons saisir cette opportunité de confinement auquel nous sommes soumis pour prier avec intensité, afin que Dieu intervienne et qu'il agisse. Nous ne devons pas fléchir devant les intimidations, nous ne devons pas céder face aux menaces, mais nous pouvons lutter autrement en priant. Donc la bataille est tellement grande que nous devons prier ardemment et sans relâche. Alors la deuxième expérience se trouve donc dans Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 23 à 31 que nous venions de lire. Les croyants dont il est question dans ce passage ne sont pas en train de prier dans les temples. Donc ce n'est pas parce qu'on nous interdit de nous rassembler dans nos églises que nous ne pouvons pas prier. Ils sont ici en train de prier dans une église maison. C'est là qu'ils formulent une prière remarquable. Elle est tellement remarquable, cette prière, qu'on ne trouve pas dans tous les Nouveaux Testaments une prière aussi remarquable que celle-là. Comment prient-ils? Nous allons essayer de voir comment ils ont prié au point de toucher le cœur de Dieu. Et nous allons voir en deuxième lieu, quel était le contenu de cette prière avant de conclure. Comment ont-ils prié, ces disciples ici, au point que leur prière a touché le cœur de Dieu? Le verset 24 précise que tous étaient unanimes. C'est-à-dire, il n'était qu'un cœur et qu'une âme pour prier. Il y a donc une unanimité dans cet élan de prière. Il y a une unité solide qui les caractérise dans cette vision de s'engager ensemble comme un seul homme pour une cause dans la prière. C'est ça que nous soulignons ici. Et mais il s'adresse à Dieu comme maître du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est ce que nous voyons au verset 24. Ça dit que non seulement ils sont unanimes, ils sont unis solidement et fermement pour une cause unique, pour que le Seigneur intervienne, mais aussi avec humilité, ils s'adressent à Dieu. Il s'adresse à lui comme le maître du ciel et de la terre, comme le maître de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est-à-dire, ils sont dans une totale dépendance vis-à-vis de Dieu qu'ils reconnaissent comme le maître du temps, de l'histoire et des circonstances. Face aux menaces qu'ils subissent, donc, ils s'engagent à prier, mais ils prennent à témoin ceux qui sont en train de vivre toutes les menaces qui s'abattent sur eux. Ils prennent à témoin Dieu, parce qu'ils le reconnaissent comme le maître suprême du monde et de l'histoire. Parce que le pouvoir de Dieu, devant lequel il se présente dans la prière, c'est un pouvoir qui surplombe le pouvoir des humains, de ceux-là qui sont en train de les harceler. En fait, en s'adressant à Dieu de cette manière et en lui rappelant ce qu'il est, ils sont en train de faire une prière qui va toucher le cœur de Dieu. Ils sont conscients dans leur prière, dans leur expression, que toute chose et chaque homme, chaque femme est assujetti à la volonté créatrice de Dieu. Même les membres de Sanhédrin, si puissants soient-ils, en tout cas, ils sont assujettis à Dieu. La force de cette prière, c'est qu'ils connaissent Dieu à qui ils s'adressent. Et ils lui rappellent ça dans leur prière. Nous devons, quand nous adressons à Dieu, savoir à qui nous nous adressons, quelles sont les paroles que nous prononçons et qui démontrent à suffisance que nous connaissons que celui à qui nous adressons est la personne de référence. C'est celui-là de qui nous dépendons et qui peut trouver, donner des réponses aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et parce qu'ils le font, ils remettent leur sort entre les mains de Dieu. Deuxième chose, il cite le psaume 2, dans le verset 25, en fait, que nous avons lu, qui nous dit « Pourquoi donc ces grondements des nations et ces vaines entreprises de peuples ? Les rois de la terre se sont rapprochés et les chefs se sont assemblés pour ne faire plus qu'un contre le Seigneur et contre son oint. » Le verset 25 et 26 n'est qu'une citation du psaume 2, versets 1 à 2. Les disciples ou les apôtres ici sont en train de construire leur prière sur les Saintes Écritures. Parce que c'est dans ces Saintes Écritures qu'ils trouvent l'essence des événements qu'ils sont en train de vivre. Quelle intelligence! C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Nous devons nous rassurer quand nous prions, que nous prions en accord avec la volonté de Dieu. Donc, lorsqu'ils se réfèrent aux Écritures, ils sont bien assis dans la parole de Dieu, et cette parole de Dieu est la volonté même de Dieu. Leur prière est bien cristallisée. Elle doit atteindre son but. Les disciples se mettent aussi dans la peau de David, parce qu'en fait, ils citent le psaume de David, qui est le psaume 2, verset 1 à 2. Ils se mettent dans la peau de David qui, entouré des ennemis, affirme sa confiance dans la force ou la puissance de Yahweh. David parle ici par expérience, en montrant que le comportement tumultueux, le comportement insolent de nations, même les projets de peuple, n'est qu'une apparence. Elles ne sont pas en mesure d'arriver à bout, quelles que soient les intimidations, si impressionnantes soient-elles, quelles que soient les menaces auxquelles on est confronté, si impressionnantes soient-elles, ce n'est qu'une apparence. Elles sont vouées à l'échec. C'est ça, ils sont convaincus de ça. Lorsque nous engageons dans la prière et que nous venons nous adresser à Dieu face à des situations qui nous déroutent et auxquelles nous sommes confrontés, nous devons porter à l'esprit que celui à qui nous adressons, c'est Dieu. Et ceux qui effectivement nous font mal ou tout simplement sont en train de nous faire souffrir, quel que soit le niveau de la souffrance par laquelle nous sommes en train de passer, nous devons comprendre que qu'il y ait des menaces, qu'il y ait des intimidations auxquelles nous sommes confrontés, ce n'est qu'une apparence. Parce que le Dieu auquel nous nous adressons est tout puissant. Il est en mesure de faire des choses qui sont au-delà de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que la prière peut changer le cours des événements lorsque nous prenons conscience que Dieu auquel nous nous adressons est plus grand que les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Troisième chose, ils assimilent leur souffrance à celle de leur maître Jésus. Parce qu'ils reconnaissent ici, ils disent que les hommes se sont vraiment assemblés dans la ville. Ils se sont vraiment assemblés en cette ville, donc ici à Jérusalem. Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël contre Jésus, ton saint serviteur, et que tu avais un ouin. Ils ont ainsi réalisé tous les desseins que ta main et ta volonté avaient arrêtés. Ils sont en train d'assimiler leur souffrance à celle que le Christ a connue. Parce que Ponce Pilate et Hérode s'étaient engagés dans une alliance contre nature pour tenter de faire échouer le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Parce qu'en mettant à mort le Messie, ils pensaient faire échouer le plan de Dieu. Mais ils ont été plutôt des instruments dont Dieu s'est servi, comme pour se moquer d'eux, dont Dieu s'est servi pour pouvoir faire accomplir son propre plan. En tuant Jésus, Israël s'est allié avec les païens. Mais en le faisant, ils ont fait ce que la main de Dieu et le plan de Dieu avaient déjà arrêté d'avance. Les Juifs et les païens, en complotant contre le Messie, je l'ai déjà dit, ils ont été des outils dont Dieu s'est servi pour accomplir sa volonté. Les disciples ici et les apôtres sont conscients que Dieu reste au contrôle de toute situation. Dieu reste au contrôle de toute situation. Ils comprennent ici qu'il pour être vigoureux et fort, il faut prier. Parce qu'ils sont en train de faire face à des menaces, à des persécutions, tout simplement parce qu'ils prononcent le nom de Jésus dans leur message. Donc, les sorts qu'a subi Jésus, c'est les mêmes sorts qu'ils sont en train de subir parce qu'ils prononcent le nom de celui-là qui a été fait tuer, qu'on a mis à mort, mais qui est ressuscité d'entre les morts. Et par le fait qu'il cite le nom de Jésus comme le seul nom digne d'être cité, digne d'être invoqué, pour que cette personne-là qui était infirme de naissance et qui a obtenu la guérison puisse être guérie, c'est à cause de ce nom-là qu'il se retrouve en train d'être confronté à une situation difficile, insupportable. Ils sont conscients que ceux qui n'ont pas toléré le Christ ne toléreront jamais non plus ses propres disciples. Et en tant que disciples, ils sont prêts, soyons aussi prêts, à suivre le chemin de la croix, le chemin de la passion de notre Maître. Et quand nous subissons des coups et des contre-coups, ce n'est pas le moment de s'affaiblir, de se laisser abattre, c'est plutôt le moment de prier. Et c'est ce que les disciples et les apôtres ont fait. Alors, quel est le contenu de leur prière? Le contenu de leur prière est impressionnant. Le verset 30, que je peux lire encore, dit « Étends ta main, » on commence au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire la parole avec une entière assurance. » Ce qui est intriguant, et c'est là où cette prière est impressionnante, c'est que quand ils s'adressent à Dieu, alors qu'ils sont arrêtés, ils sont intimidés, ils sont menacés de ne plus jamais parler de ce Jésus-là, ils disent à Dieu, sois attentif à leurs menaces, mais accorde à tes serviteurs de dire la parole avec une entière assurance. Ils auraient pu prier pour qu'ils soient délivrés de leurs ennemis, mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu prier pour que les ennemis soient punis, mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient aussi pu prier pour leur protection, pour leur sécurité, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne font référence dans leur prière, ni pour leur délivrance, ni pour leur protection, ni pour leur sécurité. Mais ils sollicitent plutôt l'intervention de Dieu, afin qu'ils soient attentifs, que le Seigneur jette les yeux sur leurs menaces, sur les menaces des dirigeants juifs. Et accorde à ses serviteurs d'annoncer la parole avec audace, avec hardiesse ou avec franchise. Ce qui m'impressionne dans cette prière, c'est que ils ne maudissent pas ceux-là qui leur font du mal. Ils n'invoquent pas le feu pour que Dieu consume ceux qui leur font du mal. Ils font ici ce qui est recommandé pour les justes quand ils prient. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, il est dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en levant les mains saintes, sans colère ni dispute. » C'est ça la recommandation des Écritures. Il arrive des fois où nous prions, nous sommes en colère et les paroles que nous prononçons vont presque jusqu'à maudire des personnes contre lesquelles, pas pour lesquelles nous prions, mais contre lesquelles nous prions. Cette manière de prier n'est pas correcte. Il faut prier, lever les mains saintes. Il faut prier sans colère. Il ne faut pas prier comme étant en train de se disputer avec les gens. Cette façon de prier, qui montrent qu'ils n'ont pas prié vraiment pour leur protection, ni pour leur sécurité, ni que Dieu puisse les délivrer de leurs ennemis, nous montrent à quel niveau cette prière doit effectivement toucher le cœur de Dieu. Ils font effectivement ce qu'a fait Ézéchias. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 37, le verset 16 à 20, Ézéchias parle d'un jour de détresse, un jour de châtiment, un jour de honte, quand Sennacherib prend le risque d'insulter le Dieu vivant et dire aux enfants d'Israël que Dieu là auquel ils croient n'a jamais délivré les gens des dieux des Assyriens. Qu'est-ce que Ézéchias fait? Ézéchias, dans sa prière, demande à Dieu d'étendre l'oreille et écouter, d'ouvrir les yeux et regarder. C'est-à-dire de se charger lui seul de Sennacherib qui a pris le risque d'insulter les dieux vivants. Il demande à Dieu d'ouvrir l'oreille pour écouter toutes les paroles blasphématoires que cet homme qui était le roi assyrien était en train de prononcer. Mais que Dieu ouvre les yeux et qu'il voit. Parce qu'en ouvrant les yeux, en entendant, en écoutant, le Seigneur pouvait lui-même s'occuper de Sennacherib. Cette façon de prier nous aide à comprendre que si nous voulons toucher le cœur de Dieu, nous devons apprendre à prier de manière à ne pas maudire les gens, mais prier pour que le Seigneur voie ce qu'ils font contre nous. Voie la manière dont ils nous traitent. Voie les menaces qu'ils font peser sur nous. Voie les persécutions dans lesquelles ils nous entraînent. En les faisant, nous laissons ces gens entre les mains de Dieu. Lui seul va s'en occuper, mais ce n'est pas à nous de nous occuper d'eux. Parce que la parole de Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ensuite, il demande à Dieu d'étendre sa main afin que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges. Par le nom de Jésus, le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que si ils pressent la parole avec audace, avec une assurance puissante, cette parole va produire des effets. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que le Seigneur accomplisse par le nom de Jésus, dont il y a interdiction qu'on ne prêche plus en son nom, qu'il y ait des guérisons en son nom, qu'il y ait des miracles, des prodiges en son nom, pour que, effectivement, lorsque les miracles et les prodiges s'accomplissent, cela puisse soutenir ou faire attester la véracité de l'évangile qu'ils sont en train d'annoncer. Une manière de dire que les miracles accompagnent la mission de l'annonce de l'évangile. Nous avons besoin de prier, mais aussi d'annoncer la parole, pour que le Seigneur nous accorde la grâce d'annoncer la parole de Dieu avec autorité, avec audace ou avec hardiesse. Mais nous avons aussi plus que cela besoin que le Seigneur opère parmi nous, au milieu de nous, des miracles, des signes, des prodiges, parce que c'est cela qui atteste que Dieu est en train d'accompagner ses serviteurs et ses servantes. À la fin de la prière, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre. Une manière de montrer que leur prière avait été approuvée. Mais pas seulement ça, une manière de montrer, parce que le tremblement de terre, c'était aussi un signe pour attester la colère de Dieu contre les ennemis des croyants. Donc, ce tremblement de terre dont nous parle le verset 31, à la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient la parole de Dieu avec assurance. Ce tremblement de terre est un signe que le Seigneur s'engageait. Engager sa colère contre les ennemis de ceux qui croyaient en lui. Mais il leur a donné la grâce d'être remplis du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu. Nous avons des personnes au milieu de nous qui ont besoin de prier pour qu'ils soient en mesure de se tenir debout pour proclamer la parole de Dieu. Il est temps que nous puissions nous mettre debout pour prier et prier de la manière qui touche le cœur de Dieu. Pour que nous puissions voir les résultats de notre prière, vivre l'expérience des prières exaucées par Dieu, nous avons l'obligation de prier de la manière qui touche le cœur de Dieu. Et c'était ça le rôle, c'est le but de notre message d'aujourd'hui. Pour que nous puissions toucher le cœur de Dieu, nous sommes obligés de nous engager dans une alliance de prière. Trouver un frère, trouver une sœur, ou que le couple s'engage, ou que les familles s'engagent, ou que toute l'Église s'engage dans la prière pour un sujet, pour des requêtes précises. Dans une unanimité où le Seigneur voit, lorsque le Seigneur voit cette unanimité, voit l'unité de cœur et d'esprit qui nous caractérise pour un seul objectif, le Seigneur va agir. Mais aussi fonder notre prière sur les Écritures saintes. C'est-à-dire, utiliser dans nos prières les promesses que Dieu a faites lui-même, parce que Dieu est lié à sa parole. Lorsque nous prions et que nous mettons, nous prions, nous nous adressons à Dieu en utilisant sa parole ou alors ses promesses, le Seigneur est tellement lié à sa parole qu'il ne passera pas outre ce qu'il a promis. Nous devons aussi reconnaître que même si nous souffrons, nous sommes appelés à comprendre que ce n'est pas parce que Dieu a le contrôle de toute situation qui nous arrive, même la souffrance qui nous arrive, que nous n'allons pas souffrir. Nous acceptons de souffrir pour le nom du Christ, mais pourvu que nous soyons prêts à comprendre que notre sort est lié au sort du Christ. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont fait souffrir notre maître, ils nous feront aussi souffrir. Mais quand nous souffrons, ce n'est pas l'occasion de nous taire et de ne pas prier. Je conclue donc en disant que nous devons nous lever les mains saintes et sans colère, ni dispute. Nous ne devons pas maudire les personnes dans nos prières, mais prions avec précision. En priant pour les problèmes en soi, parce que les menaces, ils ont dit, regarde leurs menaces. C'est ces menaces-là qu'ils ont présentées comme requête devant Dieu. Seigneur, regarde ces menaces. Le Seigneur, connaissant ces menaces, il ne pouvait qu'intervenir. Nous devons prier avec une double conviction. La première conviction, c'est que quand nous souffrons pour la cause de l'Évangile, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Car notre souffrance en tant que disciple ou serviteur de Dieu, ou servante de Dieu, est inscrite dans le plan de Dieu. Ça n'échappe pas du tout à Dieu. Et parce que ça n'échappe pas du tout à Dieu, il voit. Alors, il faut prier. Il faut prier et attendre. Le Seigneur va agir très bientôt. Deuxième conviction, nous sommes porteurs d'une parole fragile, d'une parole vulnérable, mais d'une parole qui peut être menacée. Parce que le nom de Jésus, c'était une parole que les disciples portaient. Mais cette parole-là a été menacée. Mais celui au nom de qui nous prions, nous portons cette parole, est tout-puissant. Parce qu'il est tout-puissant, donc nous devons marcher avec fierté. Même dans une situation où nous nous sentons persécutés, malmenés, par ceux qui ont le pouvoir, en reconnaissant que nos prières, parce que nous les adressons à Dieu, qui est notre Père, il prend plaisir à les écouter. Et parce qu'il prend plaisir à les écouter, si nous respectons les règles du jeu, si nos prières touchent le cœur de Dieu, vraiment, nos prières seront exaucées. Nous allons contempler la gloire de l'Éternel qui agit parmi nous et qui accomplit des choses merveilleuses à notre égard. Fondons donc nos prières sur les Écritures saintes. Fondons nos prières sur les promesses de Dieu. Humilions-nous et Dieu agira. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as donnée, qui nous donne des pistes pour cette parole qui peut toucher le cœur de Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à prier comme les disciples l'ont demandé à Jésus, leur maître, pour que toutes les fois que nous nous unissons dans la prière, comme les disciples l'ont fait, et ils ont eu gain de cause, parce qu'ils ont respecté les règles du jeu. Aide-nous, Seigneur, à être de ceux-là qui respectent les règles du jeu, afin que toutes les fois que nous unissons dans la prière, nous puissions voir l'éclat de ta gloire par les exaucements que tu réserves à nos prières. Nous voulons vivre une vie de quiétude, nous voulons marcher la tête haute dans une société ou dans un environnement hostile contre ton nom, Seigneur, parce que nous sommes porteurs, nous sommes fragiles, mais nous sommes porteurs de vases d'honneur. Ces vases, nous les portons dans notre corps, fragile, c'est vrai, mais qui constitue pour nous, c'est constitue pour nous la raison de fierté, c'est parce que nous croyons en Dieu Tout-Puissant. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous puissions apprendre et réapprendre à nouveau comment nous devrions prier et vivre la joie d'être exaucés lorsque nous adressons nos prières à toi. Bénis-nous et bénis chacun d'entre nous et permets, Seigneur, que nous puissions chacun comprendre que nous ne devons pas prier seuls, isolément. Nous devons nous engager dans une alliance de prière avec un frère ou une sœur, en tant que couple, en tant que famille, en tant que communauté de foi, pour que lorsque tu observes l'unanimité qui nous caractérise, l'humilité qui nous caractérise, mais aussi la manière dont nous usons de la parole de Dieu, des promesses que tu as données dans les Écritures saintes, et que nous avons des prières qui effectivement traduisent un contenu qui va tout droit à ton cœur, Seigneur, nous pouvons être de ceux-là qui obtiennent des réponses à toutes les prières que nous t'adressons. Nous voulons vivre la joie d'être exaucés. Accorde-nous de faire cette expérience dans les multiples problèmes et preuves auxquels nous sommes confrontés pour que nous puissions vivre toujours dans la joie de voir que Dieu auquel nous adressons nos requêtes, auquel nous prions, exauce nos prières. Bénis-nous. Bénis cette parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.